Juin, il est 8h.
Europe Matin.
Dimitri Pavlenko.
Et à la une de ce journal qui sera très largement consacré au procès des attentats du 13 novembre. Ça y est, c'est l'heure du verdict après 10 mois d'audience. Alors comment les habitants du quartier du Bataclan vivent ces dernières heures? Qu'attendent-ils de la justice? Reportage dans un instant. 20 accusés au total dans ce procès. Parmi eux, évidemment, Salah Abdeslam, dernier membre encore en vie du commando. Il risque la prison à vie. Explication de Gladys Lafitte. Gladys Lafitte, journaliste du C'est au service police-justice d'Europe 1 qui est en studio avec nous. Europe 1 en direct également de Madrid ce matin. Premier succès au sommet de l'OTAN. La Finlande et la Suède vont intégrer l'Alliance Atlantique. William Molinier sera en direct avec nous. Et puis en Lituanie, le train qui relie Moscou à l'enclave russe de Kaliningrad continue de traverser le pays malgré les sanctions européennes. Reportage de notre envoyé spécial. À 8h13, votre invité ce matin, Sonia Mabrouk, bonjour.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Notre invité a salué hier de manière républicaine l'élection de la nouvelle présidente de l'Assemblée nationale, Fabien Roussel, secrétaire général du PCF, qui fait de plus en plus, vous l'aurez remarqué, cavalier seul. Mais jusqu'où? Jusqu'à entrer au gouvernement? Non, jure-t-il désormais? Eh bien, on va vérifier tout cela tout à l'heure.
Le journal Fanny Marceau. Bonjour Fanny.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Le verdict au bout du tunnel. 149 jours d'audience, 10 mois d'un procès d'une ampleur inédite. Ce soir, après 3 journées de délibération, la cour d'assises spéciale des attentats du 13 novembre va trancher. Bonjour Gladys Lafitte.
Bonjour Fanny, bonjour à tous.
Vous êtes journaliste au service police-justice d'Europe 1. Vous avez couvert ce procès de bout en bout. On va voir avec vous dans un petit instant ce qui attend la cour et les accusés aujourd'hui. Mais avant, parlons de l'émotion. 130 personnes ont été tuées ce 13 novembre 2015, la plupart dans les 11e et 10e arrondissements de Paris, au Bataclan, au Petit Cambodge, au Carillon, à la Belle Équipe. Dans ces quartiers, la douleur est toujours là et on attend beaucoup de ce verdict. Le reportage de Marion Gauthier.
Les yeux plissés pour lire les inscriptions sur la porte du Bataclan.
Je vois le mot love et des cœurs.
Laurent hésite à entrer dans le café mitoyen, se décide.
C'est très très émouvant. J'attends ce verdict et je sais bien qu'il ne sera pas définitif et qu'il y aura probablement un appel. Mais il faut que la justice passe. Ils doivent être punis.
Un soulagement envisagé par certains, la fierté déjà pour d'autres qu'un tel procès s'achève.
Autrement, on n'est plus dans une société démocratique.
L'ancien voisin de la salle de spectacle.
J'ai souvenir d'une femme partiellement couverte par un drap et puis vous voyez ses jambes et elle était à prendre un café là. Je me suis dit, eux ils sont morts, nous on va vivre de quoi plus pour compenser la mort.
Impensable de vivre au rythme des audiences. Autour des bars ciblés par les terroristes, la vie recommençait au forceps. La plupart des témoins sont parti ou reste muet, souligne un serveur du Carillon.
C'est trop lourd, qu'on oublie un petit peu et on passe à autre chose.
On ne tournera jamais la page.
Hicham, 20 ans de terrasse dans le quartier, désigne la plaque commémorative au coin de la rue.
Quand on vient boire le café, on fait vivre leur mémoire.
Quelles que soient les peines, elles seront insuffisantes, cingle-t-il. Elles ne ramèneront personne.
Marion Gauthier. Gladys Lafitte, beaucoup d'attentes du côté des 2400 parties civiles à l'approche du verdict qui est attendu ce soir.
Oui, alors on ne sait pas précisément à quelle heure, nous ne sommes pas dans le secret du délibéré. En tout cas, toutes les parties, avocats, victimes seront convoquées au palais de justice, journalistes y compris, quand la cour composée de 5 magistrats professionnels sera arrivée à une décision pour chacun des 20 accusés, dont 14 présents. Les autres sont jugés par défaut. A priori, ce sera ce soir, mais le président a prévenu, cela prendra le temps qu'il faudra pour assurer un verdict le plus équitable possible, je cite, car la décision, vous l'avez dit, est évidemment très attendue par les parties civiles, mais aussi évidemment par les accusés.
Alors justement, parmi eux, Gladys, certains risquent la prison à vie.
Oui, 10 peines de réclusion criminelle à perpétuité ont été requises par le parquet national antiterroriste, certaines accompagnées de périodes de sûreté allant de 22 ans à l'incompressibilité pour Salah Abdeslam, le dernier membre encore vivant des commandos. La cour peut décider d'aller en dessous, mais aussi de suivre ces réquisitions. Pour Salah Abdeslam, ça voudrait dire que pendant au moins 30 ans, et pas sans remplir certaines conditions, il ne pourrait pas faire de demande d'aménagement de peine. On parle juste de demande, pas d'acceptation. Par exemple, Michel Fourniret, le tueur en série, avait écopé de cette peine, mais il était déjà âgé. Salah Abdeslam a 32 ans aujourd'hui. Évidemment, c'est impossible de dire s'il pourrait passer sa vie en prison, tout comme d'autres accusés d'ailleurs, qui ont aussi la trentaine et qui risquent la réclusion criminelle à perpétuité.
Gladys, que va-t-il se passer une fois le verdict prononcé?
Alors déjà, la lecture de ce verdict va prendre du temps, environ 3 heures, nous dit-on, d'abord pour lire les motivations, et on saura à la toute fin les peines qui seront prononcées. Certains accusés retourneront peut-être en prison, et peut-être que d'autres seront libérés s'il y a des acquittements. À l'inverse, en ce qui concerne les 3 accusés qui comparaissent libres, ont été requises des peines de prison contre eux, ils pourraient donc y retourner. Et à partir de ce moment, un délai de 10 jours va s'ouvrir, durant lesquels les condamnés pourront faire appel, tout comme le parquet national antiterroriste, soit pour certains accusés, soit pour tout le monde. Et c'est le nombre d'appels qui déterminera la longueur du futur procès en appel, si procès en appel il y a.
Merci Gladys Laffitte du service police-justice d'Europe 1.
Il est 8h05 sur Europe 1. La Suède et la Finlande, bientôt dans l'OTAN, l'adhésion la plus rapide de l'histoire de l'organisation atlantique.
Oui, il ne restait qu'un seul verrou, le veto de la Turquie, levé hier après la signature d'un accord au sommet de l'OTAN à Madrid. Pour convaincre Ankara, Stockholm et Helsinki se sont engagés, comme l'a annoncé le secrétaire général de l'OTAN, à soutenir complètement la Turquie face aux menaces contre sa sécurité. Bonjour William Molinier.
Bonjour Fanny, bonjour à tous.
Envoyé spécial à Madrid où vous suivez ce sommet pour Europe 1. Maintenant que cet accord est validé, quelle est la suite du processus pour que Stockholm et Helsinki intègrent l'OTAN ?
Eh bien, ce matin, lors de la première session de travaux, l'OTAN va officiellement proposer à la Suède et à la Finlande de rejoindre l'Alliance. Les deux pays sont déjà invités ici au sommet de Madrid. Ce sera la première étape du processus qui aboutira à l'adhésion sous un calendrier relativement rapide, sans doute moins d'un an. Le temps que les alliés et que les deux pays se mettent juridiquement d'accord, mais d'un point de vue strictement militaire, leur intégration ne devrait pas poser de problème car leurs armées sont déjà d'un bon niveau, assez proches des standards de l'OTAN. Leurs soldats maîtrisent l'interopérabilité et s'entraînent régulièrement avec leurs voisins. Ils ont même participé à des missions de l'OTAN, par exemple dans les Balkans. Avant de signer le traité de l'Atlantique Nord, il faut que tous les parlements des États membres ratifient le protocole d'entrée. Cela diffère d'un pays à l'autre. En France, par exemple, il faut passer par un vote à l'Assemblée nationale. Et ce n'est seulement qu'après toutes ces démarches que la Suède et la Finlande pourront alors bénéficier de l'article 5, celui de la solidarité de tous les membres en cas d'agression d'un des leurs.
Merci William Molinier en direct de Madrid pour Europe 1. Sommet suivi de près par Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, qui a également exhorté l'ONU hier à dépêcher des enquêteurs à Kremenchuk, où 18 personnes ont été tuées dans un centre commercial après une attaque russe lundi.
Les Russes mettent également la pression sur la Lituanie, lieu de passage incontournable pour accéder à leur enclave de Kaliningrad.
Ah oui, la Lituanie, territoire de l'OTAN et de l'UE, où le transit de certaines marchandises russes est désormais soumis aux sanctions européennes. Le transport de passagers, en revanche, fonctionne toujours puisqu'il est protégé par des traités internationaux. Chaque jour, donc, des trains russes ultra surveillés font un arrêt dans la capitale lituanienne avec un accueil choc sur le quai de la gare. Le reportage de l'envoyé spécial d'Europe 1 à Vilnius, Caroline Baudry.
9h23, comme chaque jour, les wagons du train gris et rouge entrent en gare. Une annonce en langue russe résonne dans les haut-parleurs du quai numéro 12.
Aux passagers du train 29 Moscou-Kaliningrad. Nous avons préparé pour vous une galerie de photos prises en Ukraine. Vous pouvez les voir par les fenêtres de votre wagon. Aujourd'hui, Poutine tue les civils innocents d'Ukraine. Acceptez-vous cela ?
De rares visages apparaissent derrière les vitres teintées. 24 photos sont fixées sur les grillages qui bordent le train. Des bouches découpées, des bâtiments éventrés pour les sortir de la propagande russe. Sur le quai d'en face, Lilia, 51 ans, réfugiée de Kiev, agite un drapeau ukrainien et brandit cette pancarte vers les voyageurs.
Les Russes, partez de mon Ukraine. C'est la seule chose que je veux leur dire. Les gens qui voyagent dans ce train, certains partent en vacances. D'autres reviennent de la mer. Là, ce sont les vraies images de ce que leurs fils sont en train de faire. J'aimerais vraiment qu'ils réfléchissent. Comment regarderont-ils leurs enfants dans les yeux s'ils ont choisi une personne pareille et la laissent agir comme ça? Alors ils ont une part de responsabilité.
Un vieil homme à la fenêtre se tient les mains en signe de solidarité. 10 minutes plus tard, le train repart. Le maintien de sa circulation est le gage d'une paix aujourd'hui fragilisée. Vilnius, Caroline Baudry, Europe 1.
Allez, un mot de tennis pour terminer. Début du second tour aujourd'hui à Wimbledon.
Et le français Hugo Humbert affronte le finaliste de Roland-Garros, Casper Ruud. Et puis hier, on salue quand même la victoire d'Harmony Tan, vainqueur de Serena Williams, septuple championne de Wimbledon.
Voilà, c'était son premier match depuis un an, ceci dit, à Serena. Voilà, merci beaucoup Fanny Marceau, c'était votre journal. Dans un instant sur Europe 1, Fabien Roussel est l'invité de Sonia Mabrouk. À tout de suite.
Dimitri Pavlenko,
Votre matinale info sur Europe 1.